La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Peut-être à nouveau écouter Thérèse Claire, parce qu'on vous l'annonçait au début de l'émission, elle c'est quand même une grande militante pour le droit à l'avortement. Et bon, bah, ça résonne un peu avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et donc peut-être qu'on peut entendre un extrait où elle nous parle de ça, de sa lutte et de comment ça se passait jusqu'à la légalisation.
Ouais, tout à fait.
Il y avait un slogan à l'époque, oui papa, oui chéri, oui patron, il y en a marre. Et c'est là où on a commencé à parler d'avortement, à apprendre à faire des avortements. Je me souviens que c'était un bistrot qui devait s'appeler le Voltaire et la fille du bistrot qui s'appelait Agnès m'avait appris à faire un avortement.
Mais vous apprenez où à faire ces avortements ?
Eh bien, Agnès m'emmenait dans des avortements qu'elle faisait, elle, dans le quartier. C'était dans le 11e arrondissement. Je me souviens qu'on traînait le matériel dans un petit caddie de marché, vous voyez, et on allait avorter.
Dans un cabas, vous traîniez un cabas avec dedans les sondes
avec les sondes, vous savez, la boîte de désinfection. Parce que les avortements étaient faits dans le temps avec un curetage. Et que, bien entendu, il y avait des médecins qui trouvaient très très drôle de cureter à vif, de cureter sans anesthésie. Parce que comme ça, tu t'en souviendras, salope, et tu recommenceras pas.
Moi, je me souviens de m'être fait opérer. Je vois arriver le gynécologue qui fait sa visite. Et quand il est parti, ma voisine, qui avait 20 ans de plus que moi, dit « Ah ! Le boucher de Pontoise !» Alors j'ai dit « C'est quoi le boucher de Pontoise ?» Elle m'a dit « Autrefois, l'hôpital de Pontoise était tenu par des bonnes sœurs. Et le boucher de Pontoise, ce mec qui vient de passer pour faire ses visites gynécologiques, et ben, il faisait des curetages sans anesthésie aux femmes. Et des bonnes sœurs lui donnaient des coups de pied en disant « T'as fauté, salope !»
Il faut savoir que le pouvoir médical était terrible pour les femmes. Et une fois que j'ai emménagé ici en avril 1974, j'ai avorté sur cette table. On faisait des permanences, je me souviens, tous les samedis matins, parce que les femmes, on les avortait pas comme ça. On parlait d'abord savoir pourquoi elles voulaient avorter. On demandait à des femmes qu'on avait déjà avortées de venir pour expliquer comment ça se passait, que c'était pas si difficile. Là, les garçons nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Parce qu'avoir un aspirateur Karman, c'était cher. Alors ils m'ont dit, écoute Thérèse, on va se débrouiller. Et alors mon voisin d'en face, qui était un bricoleur né, ils avaient, avec le voisin du dessus, avaient été acheter un moteur de frigidaire. Ils m'ont mis un manomètre et j'ai eu un bel aspirateur Karman.
Parce que l'appartement n'est pas très grand ici.
Non, il n'est pas très grand. Au rez-de-chaussée, nous avions une femme divorcée qui était encore dans les larmes du divorce. Son mari l'avait plaquée, quittée. Et elle voyait bien qu'il y avait du va-et-vient là, des femmes qui... Donc j'ai fini par lui dire, écoute Louisette, on va te mettre au courant, voilà ce qu'il arrive. Et là, elle m'a dit, ah mais moi j'ai avorté deux fois. Et après, elle nous faisait des gâteaux, elle montait des gâteaux, parce qu'après les avortements... Pour ne pas laisser un souvenir trop horrible de l'avortement, qui n'est pas drôle, c'est jamais un truc drôle, on faisait une petite fête. Bon, et on était extrêmement tendre avec la femme qui avait avorté, parce que derrière, il y avait toujours un arrière-fond d'une histoire d'amour qui était un peu glauque, il y avait toujours plein de choses.
Donc sur cette table, et c'est quoi? C'est des dizaines, des centaines de femmes qui sont...
Non, des dizaines, ça suffit, vous savez. On n'était quand même pas vraiment pour, c'était nécessaire de gagner la loi.
C'est-à-dire qu'en parallèle de cette pratique de l'avortement, il fallait gagner la bataille de l'opinion et donc militer en même temps.
Absolument. Alors je pense que les renseignements généraux devaient être au courant parce que les renseignements généraux, ils savent tout. Mais je pense qu'ils avaient mesuré le risque politique d'être répressif pour cette loi, parce que l'opinion était mûre. Les générations de femmes avaient avorté dans des conditions épouvantables, et il fallait légaliser l'avortement, la médicalisation de l'avortement.
Donc si jamais ils avaient fait un procès à ce moment-là, oui, finalement, ça aurait médiatisé l'affaire, ça aurait au contraire fait un sujet de débat, et peut-être que c'est comme ça que vous auriez marqué encore davantage de points.
Ouais, absolument. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont foutu la paix.
Double démonstration hier à Grenoble. Une démonstration positive dans la rue. Le problème de l'avortement est un malaise national qui, depuis Bobigny, a pris de plus en plus d'acuité.
Au RTF.
Ils étaient 10 000 environ hier, en majorité des jeunes, à demander l'abrogation de la loi de 1920 et la non-inculpation du docteur Ferré-Martin qui a avorté à Grenoble, une lycéenne de 17 ans.
Journal télévisé.
Militants du mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception et sympathisants ont repris les slogans de Bobigny.
12 mai 1973.
Beaucoup savaient à Grenoble que des médecins effectuaient des avortements et tout le monde fermait les yeux. Démonstration négative aussi lorsqu'ils ont eu l'intention de faire en présence de médecins et de journalistes un avortement. La préfecture a interdit cette démonstration. Les médecins militants ont compris alors qu'ils allaient trop loin. À trop vouloir démontrer, m'a dit l'un d'eux, ce n'est plus de la médecine, c'est de l'exhibitionnisme. Épiphénomène, Grenoble n'est qu'un cas parmi les quelques 200 000 avortements pratiqués en France en 7 mois. Hier, les partisans de l'avortement ont tenté de donner un coup d'accélérateur à la révision de la loi. Ils font de Bobigny, de Grenoble, des symboles, des actes d'accusation. Bientôt, ils décideront d'une journée nationale avec avortement gratuit dans différentes villes de France.
Voilà, donc ce qu'on vient d'entendre, c'est un deuxième extrait, c'est un reportage de Là-bas si j'y suis, un extrait d'un reportage.
Ouais. Et les deux reportages qu'on a entendus, ils sont en accès libre sur le site de Là-bas. Donc voilà, vous pouvez aller les réécouter dans leur entièreté, je ne sais pas si ça se dit ici.
Peut-être. Complètement.
Voilà, c'est bien.
Oui, voilà ce qu'on vient d'entendre. On va l'aborder dans la deuxième partie vraiment de l'émission. Là, on va conclure la partie vieillesse, mais c'est vrai que ça nous semble hyper long. Et moi, ça. Bon, et puis, il faut. Les droits, c'est toujours conquis et c'est jamais gagné. Et ça me fait penser à des sons qui avaient été faits avec le collectif La Cucaracha en Argentine avant que l'avortement soit légalisé, où il y avait aussi des organisations de meufs. Qui s'appelait les Socoristas et qui organisait comme ça des avortements clandestins. Et donc, on a pu recueillir des témoignages qui se passaient plus ou moins bien selon les moyens qu'avaient les personnes pour avorter. Et donc, dans des cliniques assez clean où c'était moins traumatisant que d'autres femmes qui étaient vraiment dans la misère. Et là, c'était, ça pouvait être et traumatisant et douloureux, avoir des conséquences sociales, psychologiques et tout ça. Donc c'est très récent et puis ça va peut-être le redevenir, donc il faut se battre. Mais peut-être qu'on peut conclure la partie vieillesse avant de réaborder le sujet.
Ouais, du coup on voulait reparler du mouvement des EHPAD à Brest. On n'a pas beaucoup de nouvelles, donc on fait un appel, aux collègues des syndicats pour savoir un petit peu où ils en sont. Il y avait une rencontre la semaine dernière à la mairie avec les élus, je crois, et les ressources humaines. Et on n'a pas eu de retour. Donc, voilà.
Mais en tout cas, rien n'est gagné. C'est un personnel qui est toujours mobilisé et pour des raisons qu'on a détaillées déjà dans les émissions précédentes. Mais on en reparlera à la rentrée aussi pour vous donner des nouvelles de cette grève. Et puis de ce qui s'est passé, de ce qui a pu être obtenu. Et puis on essaiera de faire venir des gens qui travaillent dans ces EHPAD et en résidence autonomie à Brest.
Voilà.
On conclut la partie avec une petite chanson de Brigitte Fontaine qui donne la pêche. Et puis on se retrouve pour reparler avortement avec des extraits et des articles.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision, papier clope manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition, paroles, cris, fornication. Foutre interdit à 60 ans, ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés, on les jette dans les fossés, à moins qu'ils n'apportent du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans pouvoir ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.
Vient d'entendre Prohibition de notre copine Brigitte Fontaine. Et avant ça, on avait écouté Les Vieilles Douleurs après le premier reportage de Thérèse Claire, de Anne Sylvestre, une autre bonne copine aussi. Donc ça entame un peu...
Ouais, on entame un peu la partie sur l'avortement. Bah, du coup, ce qu'on disait, c'est en écoutant Thérèse Claire, on a pensé à cette période-là de la vie, et puis cet aspect-là de ses luttes aussi. Dans ce qu'elle dit, vers la fin du reportage, je trouve ça assez intéressant, ça nous permet de rebondir sur le sujet qui nous occupe. Elle dit l'opinion était mûre. Au moment de la loi Veil, ça fait bizarrement en résonance avec ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'en fait, depuis vendredi, l'IVG, enfin, il y a la possibilité d'interdire l'IVG ou de le restreindre suivant les États. Et là-bas, tous les sondages en fait qui passent montrent qu'une majorité d'Américains sont pour l'avortement. Voilà, c'est en fait on voit ça fait résonance, parce qu'on voit très bien que l'opinion en fait publique, c'est pas ce qui va justifier en tout cas les lois ou autres. On va écouter dans un premier temps, en fait, c'est un extrait, C'est un extrait d'un reportage qui est passé sur Arte sur la lutte des conservateurs contre l'IVG. Et ça, c'est un extrait c'est un reportage qui est passé il y a un mois, au moment où il y avait eu dans la presse des fuites. Enfin, il y avait eu une fuite en fait sur le projet, le fameux projet qui visait à abandonner l'arrêté Roe versus. Wayne, je sais plus. Voilà. Du coup, ça c'est juste ce qui se passe aux États-Unis. Et puis après, on reviendra sur. Donc, qui explique bien en fait la situation. Alors, on l'a un petit peu découpé parce que c'est du niveau législatif en fait aux États-Unis qui nous concerne pas forcément. Mais ce qui est intéressant d'entendre, c'est surtout le travail des lobbies. Et on reviendra après sur ce qui se passe en Europe aussi de ce côté-là. Donc voilà, on peut écouter ça et puis on reprend le micro tout à l'heure.
C'est un jugement historique et une victoire pour de nombreuses femmes comme Jane Roe. Sous ce pseudonyme se cache une mère célibataire enceinte pour la troisième fois et qui souhaite avorter. Comme cet acte est interdit en 1973, Roe saisit le tribunal et gagne. Mais ce nouveau droit ne plaît pas à tout le monde. Certains religieux opposés à l'avortement ont pour objectif de faire annuler le jugement. Avec l'arrêt dit Roe versus Wade du 22 janvier 1973, il est donc clair que les États américains ne peuvent plus interdire l'avortement. Un jugement qui sera confirmé à plusieurs reprises, même 20 ans plus tard avec l'affaire Planned Parenthood versus Casey. Mais cette fois-ci, la Cour suprême donne aux États américains davantage de possibilités pour restreindre le droit à l'avortement. Ce sont surtout les États conservateurs, dirigés par les républicains, qui en font usage, pour limiter les interruptions de grossesse aux 20 ou aux 24 premières semaines. Les plus strictes sont le Texas, l'Idaho et l'Oklahoma, où les avortements ne sont possibles que jusqu'à la 6e semaine de grossesse. Aujourd'hui, de nombreux États sont déjà dans les starting blocks pour restreindre davantage l'avortement, voire l'interdire complètement si la Cour suprême venait à annuler les arrêts. Selon plusieurs sondages, la majorité des citoyens est favorable à la liberté de choix des femmes en matière d'avortement. Alors comment la revendication d'une minorité est-elle en passe de triompher à la Cour suprême ?
La décision de légaliser l'avortement a provoqué une contre-réaction avec la mise en place d'un mouvement très structuré et très bien financé de lobbying pour défaire ce que la Cour avait fait et finir par la convaincre d'abroger Roe. C'était les groupes catholiques américains, sous pression du Vatican, qui, dès les années 60, avait bien exprimé le dogme catholique qui est hostile à la contraception et à l'avortement. Donc, les catholiques américains ont commencé à militer pour l'abrogation de Roe. Ces groupes catholiques savent que, vu qu'ils sont minoritaires aux États-Unis, ils ne pourront arriver à rien sans avoir à leur côté les églises protestantes qui représentent la majorité de la population. Donc, tout au long des années 70, on va avoir un rapprochement entre les groupes catholiques conservateurs et les églises protestantes évangéliques conservatrices. Et ce rapprochement, ça va donner naissance à un mouvement qui existe encore, qui s'appelle la droite chrétienne. Le grand lobby chrétien conservateur anti-avortement. Ce lobby de la droite chrétienne va convaincre le Parti républicain de rejoindre la lutte, avec une sorte de deal implicite qui est passé avec le candidat républicain en 1980, qui est Ronald Reagan. Reagan demande au groupe de la droite chrétienne de le soutenir, de voter pour lui aux élections de 1980. Et il faut réaliser que là, on parle de dizaines de millions d'électeurs, donc c'est un bloc électoral gigantesque. Donc, il leur demande de voter pour lui, et en échange, il promet que s'il est élu, il va nommer à la Cour des juges conservateurs anti-avortement. Ce qu'il va faire. Et il crée ainsi un modèle qui va être suivi par tous les autres présidents républicains après lui, le premier président Bush, le second président Bush, et Trump.
La Federalist Society est au départ un petit groupe d'étudiants en droit dans les années 80. Plusieurs de ses fondateurs avaient travaillé sur la campagne de Ronald Reagan et avaient été profondément inspirés par la montée du conservatisme dans le discours politique national et dans le Parti républicain. Ils ont donc créé la Federalist Society à partir des facultés de droit, des groupes d'avocats en exercice et des professeurs de droit. Leurs membres ont ensuite été diplômés et certains nommés juges fédéraux, puis juges à la Cour suprême. Une chose très intéressante à propos de notre système judiciaire aux États-Unis, c'est que nous avons des juges sélectionnés politiquement. Et puis après ça, ils sont sur le banc pour la vie. C'est donc une combinaison unique qui donne énormément de pouvoir. Les juges de la Cour suprême se sont montrés idéologiquement et politiquement alignés avec le parti qui les a nommés à la Cour. Vous pouvez maintenant déterminer ce qu'un juge va voter presque 90% du temps sur une affaire en vous basant sur le parti politique qu'il a nommé.
Dans le document qui a fuité, le juge Alito qui l'a rédigé précise explicitement que la décision ne s'applique qu'au droit à l'avortement, qu'elle ne s'appliquera pas à d'autres droits. La droite chrétienne, qui s'est vraiment organisée autour du droit à l'avortement, ça bien sûr, mais elle s'est diversifiée aussi. C'est-à-dire que l'avortement n'est pas son seul cheval de bataille. Il y a toujours eu aussi l'accès à la contraception. Et il y a eu plus récemment la remise en cause du mariage homosexuel. Pour eux, l'abrogation de Roe, c'est qu'une étape dans une histoire politique plus longue.
Donc on vient d'entendre Françoise Coste, donc la qualité de l'enregistrement était un peu faible. Et Amanda Hollis-Broski, Françoise Coste, elle est spécialiste des États-Unis et plus particulièrement de la politique intérieure américaine. Elle a écrit pas mal sur elle a écrit un gros bouquin a priori sur Reagan. Donc voilà. Donc ça, c'était le côté états-unien, on va dire, du problème, le côté qui est bien actuel. On a l'impression aussi, alors elle le recite, hein, elle dit c'est un petit peu un mode de fonctionnement unique. Moi, ce qui m'avait choqué, en fait, dans les réactions de ce week-end, au niveau des politiques qu'on a pu entendre ou dans les médias, en fait, c'était que le problème de la remise en cause de l'avortement, c'était pas... Oh, il y a une chute de micro. Je traduis.
Tout va bien, je suis encore là.
On va faire de l'atelier menuiserie dès qu'on aura terminé l'émission. Donc, ce qu'on a entendu, c'était que c'était pas un problème qui était « importable » entre guillemets en France. Il y a déjà des gens qui se sont exprimés là-dessus en disant « bah en fait, c'est peut-être pas la peine d'en causer ». Moi je suis pas du tout de cet avis là et en fait ce qu'il y a de bien dans ce reportage là c'est qu'il renvoie aussi sur un documentaire dont on va écouter des extraits et qui raconte un peu comment se passe aussi la lutte anti-avortement en Europe et que c'est encore une fois pas forcément des groupes formés qui représentent une majorité, mais c'est une petite minorité de lobby
qui est influente.
Ouais, très influente, très organisée, notamment en Espagne, voilà, et puis qui agissent aussi au niveau d'agir au niveau du Conseil européen, donc voilà.
Ignacio Arzuaga a été formé aux États-Unis. Il y a appris les nouvelles techniques d'influence. De retour en Espagne, il convertit les anti-IVG à l'activisme en ligne. Ignacio Arzuaga galvanise les anti-avortements espagnols. Il organise des manifestations monstres. Mariano Rajoy est sous pression. Le Premier ministre finit par céder. En 2014, le projet de loi tant attendu arrive devant le Parlement.
J'ai parlé avec des membres du Parti populaire. Ils m'ont confirmé que si nous n'avions pas lancé ces pétitions à succès, si nous n'avions pas mobilisé la société, si nous n'avions pas organisé de telles manifestations, le Parti populaire ne se serait sans doute jamais engagé à protéger la vie dans la loi espagnole.
Les anti-avortements espagnols ont échoué à changer la loi chez eux. Ils vont décider de porter le combat au niveau européen. Objectif, Bruxelles et Strasbourg, le cœur de l'Europe. L'Union européenne n'est pas compétente en matière d'avortement, mais elle distribue plus d'un demi-milliard d'euros pour financer l'IVG et la contraception dans les pays en voie de développement. C'est à cette manne que les anti-avortements veulent s'attaquer. L'une des chevilles ouvrières du combat n'est autre que l'espagnol Ignacio Arzuaga.
Pourquoi devrions-nous donner de l'argent, notre argent européen, l'argent qui, in fine, provient de nos impôts, pour procéder à des avortements?
Cette colère va coïncider avec une avancée européenne. Depuis 2013, les citoyens de l'Union peuvent suggérer de nouvelles lois, sous réserve de recueillir 1 million de signatures. Les premiers à s'en emparer sont les anti-avortements. Ils lancent la pétition « One of Us, un de nous » pour demander que l'Europe cesse de financer les avortements à l'étranger. Sophia Koubi fait partie d'une nouvelle vague qui ose retourner à son avantage le discours des droits de l'homme.
Ce discours, c'est typiquement une des stratégies préférées des anti-avortements pour lutter contre ce droit. Ça s'appelle
la colonisation des droits humains. Et c'est de prendre le vocabulaire des droits humains et de lui redonner une autre définition. Et donc, ils sont en train de faire ceci dans certains domaines. Par exemple, ils essayent d'inventer un statut juridique pour l'embryon. Un droit du père à avoir son mot à dire sur la décision d'une femme de procéder à un avortement.
Voilà, donc le deuxième extrait, toujours d'Arte.
Oui, tout à fait, oui. Alors, l'émission, comment elle s'appelle? Je ne l'ai plus.
Avortement, bon. les croisés contre-attaque.
C'est ça. Donc ça, c'est un truc assez bien foutu, avec en plus des témoignages qu'on n'a pas passés, mais qui sont affligeants. Moi, je voulais revenir justement sur... donc on a dit que selon les médias et selon les politiques qui ont pris la parole là, depuis vendredi, c'est un problème qui n'est pas important, puisqu'il y a une proposition de loi de Aurore Berger d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Et les personnes qui ont été interrogées disent non, c'est pas la peine, globalement, c'est un peu ça. Je voulais lire aussi un article qui dit un peu le contraire, c'est Benjamin Koenig dans L'Humanité d'aujourd'hui. Donc je cite Caroline Parmentier, l'attachée de presse de Marine Le Pen, à qui cette dernière a offert une circonscription sur mesure dans le Pas-de-Calais, rédactrice durant 25 ans au journal catholique traditionnaliste Présent. Elle y écrivait en 2018 qu'après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 par an, on doit maintenant les remplacer à tour de bras par des migrants. L'élu du Var, Laure Lavalette, qu'on voit assez fréquemment là, à la télé depuis les élections législatives, donc qui était candidate, comparait l'IVG au génocide arménien et rwandais, à la Shoah, au crime de Daesh. Le vote de la constitutionnalisation de l'IVG risque de donner lieu à quelques contorsions à l'extrême droite de l'hémicycle. Là, ça repart un peu sur ce qu'indiquait le dernier intervenant aussi, c'est-à-dire qu'on sous couvert de lutte, et c'est un peu le cas de tous les sites en fait qui luttent contre l'IVG, en fait ils parlent de droits humains, donc c'est vraiment
le droit à la vie.
Ouais, c'est ça, c'est le droit à la vie, mais c'est vraiment bien camouflé, quoi. On est là pour votre bonheur, on est là pour le droit des humains, et en fait quand on cherche bien, c'est directement attaquer ça.
Et puis d'ailleurs, il y a quelques sites qui avaient été récupérés comme ça, mais même sur la contraception ou des sites qui se voulaient d'informations complètement neutres et qui en fait étaient anti-avortement.
Ouais, il y a alors là, j'ai retrouvé un article du Figaro qui date de 2016. Et qui parle de l'interdiction des sites. Donc il y a 3 sites qui étaient visés pour une interdiction par rapport à leur message anti-IVG, et surtout par l'utilisation de noms de domaine qui peuvent être, enfin qui c'est pas qui peuvent, c'est qui prêtent clairement à confusion. Il y avait le site ivg.net. Il y en avait un autre qui s'appelait Afterbez. Bon, c'est moins flagrant. Et le dernier qui s'appelait écouteivg.org. Il faut savoir que l'article il date de 2016, je crois. Et donc c'était une proposition de loi pour interdire ces sites. Ils sont toujours en activité actuellement. Voilà, donc a priori, ce n'est pas passé, ça a dû passer par le Sénat, mais ne pas passer par le Sénat.
Et c'est hyper craignos parce que quand on veut des informations, taper ivg.net, c'est complètement à la portée de plein de gens qui ne se doutent pas de la manipulation par derrière.
Ouais, et c'est surtout des gens qui sont assez talentueux. Enfin, les gens qui mettent en place ces sites-là, c'est pas des perdreaux de l'année, c'est des gens qui ont des connaissances en informatique, qui ont des connaissances aussi du fonctionnement des moteurs de recherche de type Google. C'est-à-dire que potentiellement, on peut se dire que si on tape IVG, ils vont arriver dans les premiers résultats, quoi.
Ouais, on sait bien que l'extrême droite, c'est un de ses chevals de bataille de passer par Internet, par les commentaires, la direction vers des sites.
Et il y avait un autre article qui est paru il y a un an. Concernant Facebook qui avait reçu 58 000 euros pour diffuser des publicités décourageant l'IVG. Donc voilà, ça fait partie aussi, du travail de lobby. Donc qu'on voit, qu'on entend beaucoup dans le reportage aussi. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas nombreux qu'on n'a pas de force de persuasion. Dans les gens, là, dans les personnes qui sont citées dans le reportage, il y a... alors que je retrouve, comment elle s'appelle ? Je ne retrouve pas. Je suis perdu. Dans toutes mes...
Tes recherches d'actualité brûlante.
Ouais, il y a Sophia, on parle de Sophia Kubi, donc je ne sais pas si vous, dans le reportage, c'est une Autrichienne ou une Allemande. Donc elle qui est vraiment clairement affichée comme faisant partie du lobby anti-IVG. Et faut savoir que c'est pas si loin de nous, parce que en fait cette personne-là, j'ai retrouvé sa trace, elle fait des conférences, elle en organise notamment, elle est passée en Bretagne assez récemment. On pense aussi à Alliance Vita, qui s'est déjà invité à Brest aussi il y a 2 ans, je crois. Dans les personnes qu'on peut citer aussi, il y a Émile Duport, donc lui qui a créé le site et le mouvement Les Survivants. Donc leur principe, c'est de dire, en gros, une personne sur la base de 200 000 avortements, ils disent en gros, c'est une personne sur 5 qu'on a perdue. Et ça, c'est pareil. Alors, Émile Duport, il n'en est pas à son coup d'essai. Il avait préparé la mort, préparé entre guillemets. C'est pas lui qui l'a tué, mais il avait préparé la mort de Simone Veil. Il avait rien trouvé de mieux que d'acheter le nom de domaine simoneveil.com et de se servir de ce site pour que, au moment où les recherches commenceraient sur les moteurs de recherche au lendemain de la mort de Simone Veil, en fait, les gens atterrissent sur son site qui était clairement anti-IVG, quoi. Et puis, dans les personnalités influentes, on peut encore citer Eugénie Bastier, qui bosse au Figaro, qu'on entend souvent. Il y a Julie Graziani, qui est une éditorialiste qu'on entend un peu sur tous les plateaux. Donc en fait, c'est pas du tout des gens isolés, quoi. Et puis sur la réaction des politiques là, actuellement, il y a déjà François Bayrou qui s'oppose à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Et puis, a priori, ça pose problème aussi aux républicains. Donc ça y est, en fait, c'était juste une manière de dire que mettre le problème sous le tapis, de dire que c'est qu'on n'est pas concerné par ce problème-là, c'est complètement faux, quoi. Puisqu'on se rend compte qu'il y a des gens à qui ça pose problème, et sous couvert de dire bah non, en fait, on n'est pas concerné par la question, il y en a déjà qui disent qu'ils ne vont pas voter ce projet de loi, quoi.
Ouais, d'une part, et puis d'autre part, c'est quand même faire preuve d'un certain manque de solidarité vis-à-vis de toutes les personnes qui vont galérer à avorter dans plusieurs États des États-Unis là prochainement, et ailleurs dans le monde d'ailleurs. Et cette solidarité, elle est quand même primordiale, quoi, pour faire avancer les droits. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des collectifs féministes. Et puis, on peut aussi citer l'organisation Visa, qui est une organisation antifasciste syndicaliste et qui fait un travail de veille sur les idées de l'extrême droite, comment elles arrivent jusqu'à nous, via Internet, via des discours, via des organisations qui prennent différents noms, etc. Donc c'est intéressant d'aller voir pour, autour de nous, s'inquiéter de la présence de tous ces groupuscules qui se cachent et qui sont pourtant bien présents, quoi. Et on va pouvoir en parler en manif, samedi notamment, ouais. Mais ça, on va l'évoquer dans la partie agenda.
C'est ça.
Est-ce que sur ce sujet-là, du coup, on lâche rien? Pareil, on en parlera. Là, c'est la dernière midinale de la saison. On reprendra en septembre et du coup, on retravaillera cette question sûrement dans les midinales et ailleurs.